Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Frédéric Farah, économiste enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, qui a publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale. L'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Le mot casser l'Europe a froissé certaines oreilles. Mais j'ai bien écouté les démonstrations, notamment historiques, qui ont animé la première moitié de cette émission. Il faut la réécrire, quoi, Christian. Il faut la réinventer.
Mais bien
sûr. Mais ça veut dire repartir d'une feuille blanche. Alors je connais votre grande idée qu'il faudrait repartir déjà avec les pays historiques.
Non, mais il y a deux mots fondamentaux pour ceux qui ont été froissés. Et c'est très rassurant qu'il y ait des oreilles froissées quand on dit la vérité. Le principe fondateur, on vient de l'évoquer de façon différente, et la colonne vertébrale de l'Europe, c'est un principe de concurrence, mais c'est très important parce que moi je suis pour la concurrence, mais c'est un système qui a été bureaucratisé et judiciarisé par la Cour de justice. Donc c'est un système de règles, mais d'une complexité inouïe et qui vise à protéger au moins autant les bureaucrates que les personnes concernées. Et donc, le monde a changé, mais il n'a pas seulement changé parce que le monde de la politique économique des années 90 a changé, il a changé parce qu'on est en plein retour de l'histoire, on est en plein retour du combat pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. Les Russes s'y mettent, les Brésiliens, les Indiens, chacun a son projet stratégique. La seule zone mondiale qui n'a pas de vision et de projet stratégique, c'est l'Europe. Depuis 18 mois, il y a des micro-changements. Il y a des changements importants au niveau national. L'Allemagne construit 4 usines de microprocesseurs. La France fait un petit ajout sur Grenoble, contesté par les écologistes locaux qui disent que l'usine va consommer un peu trop d'eau. Et donc,
et par les co-actionnaires italiens.
Et quand on regarde donc l'Europe, il y a 3 technologies clés du demain. C'est les biotech, c'est le numérique et c'est l'espace. Sur ces 3 technologies, quand les Européens investissent 1, les Chinois sont à 5 en direction de 7 et les Américains à 10. Donc, si on regarde de l'intelligence artificielle, on a de très bons ingénieurs et de chercheurs en Europe, mais 90% des licornes de l'intelligence artificielle actuellement sont américaines ou chinoises. Sachant que 100% des plateformes mondiales, les GAFAM et les BTHX, sont américaines et chinoises. Face à ça, on nous répond par de nouvelles règles et par de nouveaux systèmes. Donc, casser, c'est pour... de la façon suivante, et je termine en une minute. Pour moi, il faut... Parce que ça fait... J'ai écrit 5-6 livres depuis 30 ans sur ce sujet. J'étais longtemps comme l'État et Draghi en disant il faut modifier et faire évoluer l'Union européenne. Je pense intimement que ce n'est pas possible du fait de la bureaucratie systémique du système et que donc il faut ramener l'Union européenne actuelle à 3 fonctions uniquement. 1, le marché unique. 2, le contrôle des frontières. Et 3, la stabilisation de l'ordre démocratique interne. Et il faut, à côté de l'Union européenne, pour sortir du système bureaucratique, construire une Europe puissance de quelques pays qui se mettent à investir sur les biotech, le numérique et l'espace.
Ah, ok. Alors, Guillaume, puis Frédéric Farah.
Donc c'est bien cassé pour reconstruire. Non, mais
dans la lancée de Christian... Je crois, en fait, on aime beaucoup, en France et en Europe, discuter autour d'idées, de concepts. Mais on ne compte pas assez. Et donc, ce que Christian a lancé comme, en disant ça se passe de 1 à 7, il faut se rendre compte... Donc,
avec la Chine et 10 les US.
Voilà, et 10 les US. Il faut se rendre compte que TSMC, une entreprise de Taïwan, c'est
le,
pays
géant
immense,
taïwanais des semi-conducteurs.
Il est non seulement en train d'investir à Taïwan, mais il va investir aux États-Unis. Et la taille des investissements, c'est des 50-60 milliards de dollars. Et puis, on peut le répliquer à l'envi. Ce qui s'est passé... Intel met 100 milliards. Pour les Chinois, sur la voiture électrique, on n'a pas les chiffres, mais ils ont eu... J'étais en Asie, les Chinois, ils rient jaune, si j'ose dire ce mauvais jeu de mots. Au contraire, ils sont très contents. Puisqu'ils disent, vous avez mis en place, à juste titre, nous chez Montpensier, on est à fond pour la transition climatique, mais néanmoins, le fait qu'on s'éloigne des voitures thermiques. Ils disent, les voitures thermiques, on ne vous aurait jamais rattrapé parce que votre qualité pour fabriquer des moteurs est telle que jamais. Mais par contre, avec votre règle que vous avez mis en place un peu trop à l'avance, vous nous avez donné le temps. En 2 ans, finalement, ils avaient fermé pendant le Covid, mais enfin pas tout à fait, parce qu'ils lancent des gammes sur les voitures électriques absolument énormes. Ce sont des dizaines de milliards de dollars d'investis. Et donc, le sujet de l'Europe, au-delà de tous les aspects de gouvernance qu'on vient d'évoquer, c'est que la priorité donnée au modèle social de transferts sociaux, etc., la demande à laquelle on a habitué la population en disant « oui, il faut transfert », et j'écoutais sur votre antenne à 8h15 Monsieur Croquerel, où tout l'argumentaire s'est dit « mais non, il faut rendre aux gens ». Bien sûr qu'il faut rendre aux gens et il faut avoir un modèle social protecteur, mais si on a un modèle social trop protecteur et qu'on n'a aucun moyen de suivre la course d'investissement, eh bien on passe de Ligue 1 en deuxième division. Et si on est en deuxième division, ben il n'y a pas les mêmes salaires en deuxième division et le bien-être européen collectif et le modèle social sera en jeu. Et donc ça, c'est très difficile, et particulièrement dans notre pays, de l'expliquer, parce qu'on dit « ah ben non, le problème c'est le salaire de M. Tavares ». Je me moque du salaire de M. Tavares. Le sujet, c'est qu'il a quand même fait une boîte automobile qui gagne maintenant 19 milliards et qui n'est plus Peugeot. C'est un peu de Peugeot, mais c'est un tout petit peu de Peugeot. Donc ce combat, c'est comme quand il y a une guerre, une vraie guerre, ben on compte quelles sont les troupes et quels sont les moyens militaires et combien d'obus on a. Sinon, on va perdre. Et donc, il faut que l'Europe dégage des marges de manœuvre quand même. Peut-être elle a une épargne importante qu'elle peut mobiliser. Si on en parle avec Christian, ça c'est clé, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi produire de la richesse.
Oui, mais alors, Frédéric Farah, mais on va avancer après, parce que je voudrais quand même qu'on parle du programme de
Alors, je vais être rapide, mais vraiment le sujet.
Après avoir taillé un costard à l'Europe sur 35 ans.
Non, mais je voudrais être rapide, mais c'est tellement important ce dont on parle. Donc, tout d'abord, c'est toute la difficulté de transformer une puissance qui s'est construite sur une base commerciale et du libre-échange en une puissance stratégique. C'est-à-dire, l'Europe, au départ, elle s'est rêvée comme quelque chose de commercial. Et si on doit refaire de l'histoire, après l'échec de la CED en 54, eh bien, la dimension politique disparaît au profit d'une dimension beaucoup plus commerciale là-dedans. Et elle a cédé dans les années 90, l'Europe, à 3 illusions. La première, c'était la fin de l'histoire. La deuxième, la mondialisation serait heureuse. Et la troisième, les États-Unis vont s'occuper de notre sécurité. Ça, c'est les 3 illusions dans lesquelles l'Europe a basculé. Bon. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que même pour financer tout ça, il faut changer le logiciel et les représentations. Quand on a fabriqué une BCE, à qui on a donné l'objectif principal, pas unique, parce que c'est dans le texte, c'est principal, c'est la stabilité des prix. Il y avait à l'intérieur de cet objectif un sous-jacent problématique. C'est-à-dire, c'était quoi ? Attention, s'il y a trop de croissance, je vais sortir l'arme monétaire et je vais faire en sorte de faire redescendre le truc. Donc, en gros, le mot d'ordre de la Banque centrale, dès le début, c'était « Attention, s'il y a trop de croissance, ça va créer de l'inflation, je casse l'affaire. » Donc, dès le départ, la musique intérieure, c'était « Il ne faut pas qu'il y ait trop de croissance. » Et je rappelle la modification de la Fed.
C'est un peu dur, hein, comme Frédéric.
Si, parce que de facto.
Non, mais ça peut se lire comme ça.
Non, mais de facto, si de 99, naissance de la BCE, enfin, naissance de l'euro, à aujourd'hui, à un moment donné, la zone euro a été leader de la croissance mondiale, j'aimerais savoir quand et à quelle heure. Parce que cela n'est jamais arrivé. Jamais, jamais.
Et vous rendez la Banque Centrale Européenne co-responsable ou carrément responsable de cette situation.
C'est comme en 47, quand on a modifié le statut de la Fed, c'était pour intégrer un objectif de croissance et d'emploi, parce qu'il y avait eu la crise des années 30. Chacun a son traumatisme. Les États-Unis sont prêts à tous les déficits, prêts à tout l'endettement, parce qu'ils ne veulent pas revoir le chômage des années 30 revenir devant eux. Nous, on est devenus allemands monétairement, parce qu'on est devenus... On ne veut pas l'inflation des années 20. Donc, on est devenus allemands monétairement, stupidement.
Ça, on l'a toujours dit, que la BCE était un clone de la Bouba.
Mais bien sûr. Et d'ailleurs, pourquoi le premier, c'était un Néerlandais qui était à la tête de la BCE? Parce que comme le Florin avait abdiqué pour le Marc depuis Trippet, on a mis un Néerlandais pour ne pas mettre...
Wim Duisenberg.
Wim Duisenberg. Paix à son âme, puisqu'il est décédé. Bon, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas changé ce logiciel dans le fond, et je rejoins effectivement Christian Saint-Étienne, on peut casser l'État-providence dans tous les sens, et on en a fait des réformes structurelles en Europe dans tous les sens. Aujourd'hui, on est face à un trilemme, c'est un... Est-ce que je maintiens l'état social? Je ne peux pas maintenir en même temps l'état social, l'équilibre budgétaire et les investissements d'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on choisit dans le trilemme? On prend 2 sur 3. Alors, moi, je veux bien croire qu'on peut casser l'Europe sociale, mais est-ce que c'est ça qui va nous redonner les élans pour pouvoir être plus efficace sur la tech ou ailleurs, je crois pas.
Bon, effectivement, quand je vous écoute depuis tout à l'heure, je pense qu'il faut pas attendre grand chose comme conclusion définitive de ce qui va se passer aujourd'hui à Bruxelles.
Non, mais ce qui est inquiétant, c'est que là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je suis d'accord, c'est crucial. C'est ce qu'on propose, c'est une restructuration d'un modèle qui a échoué.
Bien sûr.
C'est ça qui est clé.
D'accord, mais moi je me demande.
Et donc, la question, c'est toujours crucial dans une entreprise. Au fond, on a un nouveau leadership qui arrive dans une entreprise en faillite. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu fais ? Bon. Quelles sont les forces de l'entreprise ? Ce sont ses compétences, ses salariés qualifiés et sa connaissance quand même des marchés et produits. Dans le cas de l'Europe, vous avez une Europe qui, c'est fondamental, qui a été construite sur ce principe de concurrence, parce qu'effectivement, les Allemands considéraient que le commerce par la concurrence a mené la prospérité, ce qui était leur propre modèle depuis 45. Ce que l'on observe néanmoins, c'est que c'est dans les années 90 que s'accélère la nouvelle révolution industrielle. Or, au début d'une nouvelle révolution industrielle, que ce soit la révolution de la vapeur ou la révolution de l'électricité, on a besoin de grands programmes d'État pour accélérer la transition vers le nouveau modèle. Ça a été les investissements, alors, qui peuvent être financés par de l'argent privé ou de l'argent public, mais dans le cadre d'un plan d'État, ça a été la construction notamment de tout le système ferroviaire au 19e siècle, qui a été un élément d'accélération considérable. Pardon ?
C'était privé.
Oui, mais dans un cadre public qui favorisait...
Christian Freycinet qui donnait les autorisations.
Donc, voilà.
Pour ne pas refaire toute l'histoire, c'est ce qu'il faut répéter aujourd'hui.
Voilà, et c'est ce qu'il faut répéter. Et ce que je dis sur cette question centrale, que l'Europe, c'est pas une bureaucratie, si vous voulez, au sens où on l'entend, d'un système qui est constitué de fonctionnaires qui bossent pas. Ce que je dis, c'est que c'est consubstantiellement un système bureaucratique et que donc, par nature, il ne peut pas proposer une stratégie d'essor. Okay, et c'est pour ça que je dis, il faut recentrer l'Europe sur le marché unique. Moi, je suis pas contre la concurrence, mais si on n'a pas une politique stratégique d'investissement dans les technologies du futur et dans l'Europe de la défense, on ne s'en sortira pas. Et c'est là
va être le maître d'œuvre de cette politique stratégique ?
Ah ben, actuellement, c'est pas Macron. Mais ce que je crains, c'est que Scholz, avec la réforme des marchés de capitaux, nous éloigne de ce modèle, puisque, comme l'a dit Guillaume, ce qu'a dit Guillaume est terrifiant. En fait, je n'avais pas complètement pris conscience de ça. C'est-à-dire que l'Europe des marchés de capitaux pénétrée par les grands investisseurs américains sera en fait un détournement massif de l'épargne européenne vers les États-Unis. C'est monstrueux, c'est terrifiant, c'est insupportable.
Je voudrais rajouter.
Allez-y.
Parlons de nouveaux chiffres, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis en ce moment, ni que la Chine. Il y a tout l'axe du Sud qui est en train, le corridor du Sud qui va du Moyen-Orient. Avec tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Indonésie, Singapour, l'Asie du Sud-Est. Tous ces, peut-être pas l'Inde, mais tous les autres ont des fonds souverains d'une puissance colossale, où on parle là aussi en milliers de milliards. En centaines de milliards de dollars, c'est sûr, et en milliers de milliards quand on parle de l'Arabie Saoudite. Les projets qui sont en train de se lancer dans toute cette zone qui échange avec à la fois la capacité énergétique du Moyen-Orient, la capacité technologique de l'Inde et de la Chine, plus les développements des pays un peu plus au sud, sont d'une puissance incroyable. Et là aussi, on est dans un moment d'innovation. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas des modèles sociaux admirables. Je ne suis pas en train de dire que c'est un objectif. Je suis simplement en train de faire le point sur la concurrence mondiale qui a lieu. C'est-à-dire qu'on, États-Unis, Chine, tout le monde le sait, toute cette zone-là est d'une puissance incroyable. Quand, au fond, les Anglais, ils avaient dit on va faire Singapour en Europe.
Oui, je me souviens.
Mais c'est qui Singapour ?
Singapour sort à
Singapour en Europe maintenant ?
C'est Dubaï ?
Eh oui, c'est Dubaï. C'est Dubaï. Alors, évidemment, en France, on dit Dubaï, c'est horrible, c'est sûrement horrible. Hein. Je ne dis pas qu'il faille aller à Dubaï. Mais
c'est Dubaï qui a réalisé le projet anglais.
C'est Dubaï qui. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais je vois ce que vous voulez dire.
Tous ces arbitres.
Je suis d'accord avec Frédéric Farah. Quand vous avez installé un modèle social comme le nôtre, vous ne pouvez pas tout régler entre les plus. Diviser par deux.
Je suis en train de dire qu'il va falloir qu'on trouve.
Sans investissement stratégique, on sera obligé de trouver le modèle social.
On ne peut pas avoir le modèle social et pas avoir le fonds de pension.
Oui, mais ça.
Et vous le dites vous-même, les Allemands réessayent, on n'a pas de fonds de pension puissant en Europe.
Mais les Allemands le font à l'allemande. Hein. Oui, on n'est pas en train d'apporter une réponse européenne.
J'ai compris, mais il faut plus d'argent.
Et ça va continuer. En fait, les Allemands vont utiliser les instruments européens pour se réarmer eux-mêmes.
On l'avait compris, on avait fait le fonds stratégique.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec l'effet qu'effectivement, revenir en arrière sur le modèle social, c'est pas possible. Alors, puisque, bon, vous aimez bien quand je cite des auteurs économiques, alors je vais citer un autre effet, ce qu'on appelle l'effet Peacock-Wiseman, qui est un effet cliqué, c'est-à-dire que Peacock et Wiseman expliquent que... c'est content, je pensais pas évoquer Peacock-Wiseman aujourd'hui.
Mais allez-y, parce que là, vous allez nous apprendre quelque chose.
Et donc, c'est le septième sur la liste qui coche ce matin.
Voilà, c'est le septième sur la liste, parce que j'adore, je suis passionné d'histoire de la pensée économique et de l'histoire économique. Donc voilà. Donc Peacock-Wiseman nous explique que lorsque les dépenses publiques s'accroissent avec les guerres et sous l'effet des crises, et qu'il est très difficile après de revenir en arrière. Et qu'une fois que l'État a pris cette place et les dépenses ont augmenté, revenir en arrière devient de plus en plus compliqué. Et il prend l'exemple des crises et des guerres, où il voit que l'intervention des États augmente, ça donne la naissance, par exemple, de l'État social, on peut pas revenir en arrière. Et je crois qu'il y a effectivement cet effet cliqué de Peacock-Wiseman qui est tout à fait vérifiable.
On est en train de le vivre à la sortie des 4 années qui viennent de s'écouler.
Et c'est là. Alors évidemment, Reagan en France, c'est pas très populaire. Mais vous connaissez la phrase de Reagan, les 9 mots les plus dangereux en anglais. Le gouvernement va venir pour vous aider. Voilà. Et c'est là où il a fait le basculement. Parce qu'aux États-Unis, ils ont quand même basculé dans cette vision en 1980. Hein. Ils ont basculé. Et donc, l'effet Peacock-Wiseman, là, il y a eu une interruption.
Malgré tout, les auditeurs, téléspectateurs qui... Faut pas qu'il se suicide à 10h.
Il y en a qui m'a écrit très bon plateau ce matin, mais triste Europe.
Hein. Voilà.
Il s'appelle Olivier.
Ce que je voudrais vous dire, c'est que, personnellement, sauf un choc de remise en question de la construction européenne.
Mais ça, j'ai compris
comme
ce que vous
imaginez.
Oui, mais j'ai compris ce que vous disiez. Je me demande qui va le faire.
Je suis français, moi. Il se trouve que je vais vous faire une déclaration d'amour. Il se trouve que j'aime la France. Je vais pas le développer. Je ne sais même pas pourquoi, mais la France est dans mes tripes. Et je me dis, je réfléchis sur le plan géostratégique. Je me dis, voilà, les Américains, les Chinois, les Indiens, les Russes, tout le monde se bat pour niquer les autres. Et nous, nous sommes l'idiot, non seulement du village, mais le dindon qui se fait plumer. Oui. Et dans ce contexte...
Content de le faire.
Et je me dis, voilà, je serai à la tête de la France. D'abord, il faut faire le constat qu'on a fait ce matin. Si on le fait pas, si on dit la solution c'est plus d'Europe, on a déjà perdu. Mais si on fait le constat qu'on a fait ce matin, on se dit comment je sauve ma peau? C'est ça en fait qu'on... Je voudrais qu'on dise, est-ce que la France peut sauver sa peau dans ce contexte? Et là, pour moi, la réponse est oui. Et pourquoi la réponse est oui? C'est que d'abord,
Farah. Il faut resserrer.
J'inverse le problème. On a 56 points de dépenses publiques.
Oui, 56, ben,
on a,
58.
On a un max de pognon. Il suffit de restructurer à l'intérieur et les marges de manœuvre, elles sont là.
Hein, ah donc, mais quand vous avez beaucoup de dépenses, beaucoup d'impôts, vous êtes très gras, donc vous avez des capacités
donc,
de maigrir.
Or, quelle est l'ampleur, et je termine par là, de l'effort qu'il faudrait faire pour revenir dans la course?
10 points, allez. Mais
non, c'est peanuts, c'est
quoi?
C'est que dalle. Moi, avec 30 milliards d'euros par an, sachant que ça fait un point de PIB, puisque le PIB 2024
à peu près de ces zones-là,
29 milliards pour un point.
On est à 29, le point.
Ouais, on va être à 2900 milliards cette année. Ouais, donc le point est à 29. Donc avec 30 milliards par an, je vous change la France. Hein. D'abord, je vous donne juste 4 exemples et je ne les développe pas.
Nicolas. On va dire un mot de la France.
La réindustrialisation, c'est 50 000 hectares, 10 000 hectares par point. Le gouvernement a malgré tout changé le discours par rapport à il y a 10 ans et il vient d'annoncer hier ou avant-hier qu'on va mettre sur la table 3 000 hectares. Sauf qu'il dit que ça va être progressivement d'ici 2027-2028. Moi, je dis que d'ici 2027-2028, il faudrait 50 000 hectares.
De sites industriels.
À industrialiser. 30 000 venant des friches et 20 000 de nouveaux hectares. Je crée une agence nationale du foncier qui achète les hectares
qui les prépare, d'accord, et qui les met sur
on
la table.
Pas, mais
ça, c'est
alors,
on ne développe pas. Deux, je parle de l'intelligence artificielle, on est bon. Qu'est-ce qu'a annoncé le gouvernement ? 500 millions par an. Tu passes à 5 milliards, tu changes la donne.
Voilà.
Okay. Les biotech, on doit mettre quelques. C'est pareil. Si tu mets 20 milliards sur l'espace, les biotech, le numérique et la défense, plus une politique sur les terrains sur la construction et sur la politique sociale. Moi, je suis un libéral stratège qui pense que l'État a un rôle fondamental à jouer et surtout, je suis un fils de pauvre. Et je pense que sur l'État social, ce qui est très important, ce qui est décisif, c'est l'éducation. Et il faut remettre le paquet sur l'éducation à l'école primaire.
Moi, je vote pour
pas continuer d'avoir des gamins.
Je vote pour le programme de
compter à la fin.
Mais
je vote.
On a eu un programme France et un programme Europe.
Je vote pour le programme de Christian, mais je pense, je crains qu'il faille changer aussi un peu de structuration réglementaire et fiscale française. Et vous vouliez lancer un autre sujet
Le pacte, le programme de stabilité qui est présenté en Conseil des ministres par le ministre du budget, qui, bon, je vous le fais court, on a tout lâché sur la dette, hop, on oublie les objectifs de dette, pour espérer tenir l'objectif de déficit. Et pour y parvenir, on dit qu'on va faire 20 milliards d'économies en 2024, 25 en 2025, il n'y a pas de chiffre en 2026, mais heureusement les Français vont des épargner, donc ils vont consommer, et heureusement la Banque Centrale va baisser ses taux, donc l'investissement va repartir, et puis vous allez voir, les gains de productivité vont redécoller.
Bon, il faut espérer que ça soit vrai, Nicolas, il faut espérer que ça soit vrai, il ne faut pas forcément désespérer, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne devrait baisser ses taux, et ça c'est pas négatif, le sujet c'est que la Fed n'a pas très envie de le faire, que l'euro dérape un peu, et que ça posera des questions ensuite d'inflation importée, et donc c'est toujours un jeu complexe. Mais tout ça ne donne pas les 50 milliards les 30 milliards que donne Christian. Et d'autre part, on s'aperçoit de la tentation, et là, heureusement, on ne va pas lancer le sujet, mais de la hausse des impôts qui se profile, où tout le monde dit qu'il va falloir remonter les impôts. On rappelle qu'on est encore le pays où il y a le plus d'impôts et que les recettes de l'État sont à 53% du PIB. Donc on n'est déjà pas du tout dans un pays ultralibéral, on est dans un pays le plus socialisé des grandes démocraties occidentales. Donc,
la planète.
On disait hier avec Danny Lang que la France était un modèle soviétique qui avait réussi.
Et donc, voilà, c'est ça, mais réussi, que... qui avait réussi. Qui avait réussi et qui est en train de déraper. Donc, il va falloir absolument lutter, parce qu'on vient de dire qu'il va falloir avoir de l'épargne et l'utiliser pour les investissements productifs, pour la transition climatique.
C'est clair,
Et aussi, à titre individuel, pour la retraite, qui va être probablement un peu baissée, pour la dépendance, etc. Donc, si on essaye, j'entends la petite musique, là, il faudrait augmenter l'impôt sur le capital. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont du capital, mais la plupart des gens, c'est leur épargne. Ils ont déjà payé leur impôt sur le revenu dessus. Donc, vouloir à tout prix les retaxer, ça va bloquer. Et puis, plus c'est taxé, moins c'est mobile, cette épargne. Et donc, elle ne sera pas investie vers le productif. Donc, et les taux marginaux... parce que j'ai été intéressé dans l'émission d'hier, les droits de succession, vous n'aviez pas en tête que c'était 45%.
Le marginal, si.
Oui, mais ce qu'on dit, c'est pas assez progressif. C'est 45%. Et généralement, c'est des gens qui ont gagné leur argent. Et l'impôt sur le revenu, il est à combien? Il est à 45, plus 3 ou 4. La contribution exceptionnelle de 2011, elle est toujours là.
Elle est toujours là, mise en place.
Donc on est à 50% d'impôt, plus les charges sociales. On est hyper.
Mais on est d'accord.
Et donc, en tout cas. Et puis quand on dit, on va éliminer des dépenses fiscales, quand j'entends le mot, les cadeaux aux entreprises.
Une dépense fiscale, c'est une quasi-hausse d'impôt.
Une dépense fiscale. Donc, en tout cas, luttons contre ça.
Ok, on a 1:08. Frédéric Farah, si vous voulez dire un mot là-dessus, sur la crédibilité de la France. On a eu le message d'espoir de la France dans les tripes de Christian Saint-Etienne.
Non, mais
Il faut aller vite, là.
Mais je pense que si on veut y arriver, il y a aussi une autre réforme à faire. C'est la réforme des élites. Je rappelle que...
La réforme des élites ?
Oui, j'explique pourquoi.
Bah oui, vous avez 50 secondes.
J'ai 5 secondes. 50 secondes, je vais vous expliquer. Quand on perd en 1870, on crée Sciences Po parce qu'on se dit qu'il faut que de nouvelles élites répondent aux problèmes, parce qu'on dit c'est la défaite défaite de la France par rapport à la Prusse, parce que ça, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a créé l'ENA parce qu'on a dit il faut une nouvelle élite pour préparer l'après-guerre. Je pense qu'effectivement, pour ce dont parle Christian Saint-Etienne, qui est essentiel, peut-être nos imaginaires, nos représentations économiques doivent évoluer considérablement à travers la reformation des élites en tant que telles. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, l'État où il fait des économies, bah, il le fait sur sa réforme des retraites, donc en était une bancale, et deux, sur la réforme de l'assurance chômage. Attention, et je terminerai là-dessus, à ne pas recréer un comité George May de 1931 en Angleterre.
Le huitième.
Qui était le huitième, qui avait expliqué que pour répondre à la crise, il fallait faire des coupes dans l'assurance chômage, il fallait faire des coupes dans la dépense publique, et quand Keynes a lu le rapport du comité May, il a dit c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue dans ma vie.
Sauf que la dépense publique en Angleterre, elle était à quoi? À 20%.
Mais c'est l'esprit.
Elle était à 20% du PIB.
C'est l'esprit.
Non mais.
Eh bien,
c'est voilà.
Bon, ben, 80, enfin 100 ans de Keynes, on pourrait dire. Eh bien, il y a un moment où Keynes était formidable, mais trop de Keynes, c'est très dangereux.
Et Nicolas, vous avez posé la question, qui va faire ça? Je pense que personne ne va le faire à froid. Mais que pourquoi c'est important, ces débats? C'est qu'il faut préparer les décisions qu'on devra prendre à chaud.
Je pense que j'aurai l'occasion de vous reposer la question, pourquoi l'Amérique gagne toujours dans quelques mois. Merci à vous d'avoir été là, Guillaume Dard, Frédéric Farah, Christian Saint-Etienne. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.